quand même beaucoup ce sujet-là, quoi. Donc pour moi, c'est les gens, ils doivent sentir une problématique, quoi. Donc c'est soit ils sont assez ouverts dans l'écosystème et ils se rendent compte que ce qu'ils sont en train de faire demain, ça va leur poser des problèmes et ils commencent à changer, mais ça, c'est souvent rare, quoi. Sinon, pour moi, faut vraiment... c'est là qu'il faut réfléchir, c'est quoi les feedback loops que les personnes ont
Il y a
sur ce type de décision, quoi. Enfin,
un effet pervers que j'ai observé encore et encore, c'est que dans les projets où il n'y a pas de gestion de qualité, forcément les mecs à un moment se retrouvent à faire les pompiers. Parce que...
Exactement, c'est là le fameux mur où le feedback loop, tu te prends et tu dis putain, j'aurais voulu être chez moi là ce soir,
Eh
mais
ben
je
non,
suis un bug.
eh ben non,
Ouais.
c'est là où c'est pervers. C'est que les mecs, du coup, font les pompiers. Du coup, ils solutionnent les problèmes. Du coup, c'est eux les héros. Ils sont arrivés avec leur cape, tout, et ils ont réglé le problème. C'est génial. S'il n'y a pas de problème, tu ne peux pas faire le héros. Tu vois?
Ouais, mais pour... après, ça rejoint. Après, c'est vrai que c'est peut-être des fois le temps un peu plus long que ce que Julien a mentionné de culture. Mais par exemple, moi, les héros, c'est enfin, vous avez sûrement lu le Phoenix Project aussi, etc. Mais c'est clairement les gens qu'on veut pas dans les organisations un peu stables, quoi. Enfin, mais après, effectivement, ce que tu dis, il y a peut-être des organisations où ah, cool, c'est. Alain, je sais pas quoi, il est vraiment super, il nous a dépatouillé, puis on a fait la release à temps, génial, quoi, c'est ça. Ouais.
Non, mais bien sûr qu'on n'en veut pas. Mais si tu veux, c'est compliqué de convaincre tout le monde, surtout des gens qui prennent leur pied à jouer aux pompiers et aux héros, quoi.
C'est vrai que, enfin, pour reprendre ce que tu disais, Arnaud, c'est si on part dans une équipe où il n'y a personne qui est convaincu par la qualité et qu'on a besoin de mettre du sens, d'expliquer les gains que ça va apporter, etc. Bah, on sait qu'on va ramer, que c'est compliqué. Après, je pense que dès le moment où on a des décideurs, donc voilà, qui sont une strate un peu plus haute, qui poussent dans le bon sens et qui sont convaincus. Bah là, ça, c'est un catalyseur, quoi. Ça facilite quand même beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'on a quand même l'appui des décideurs. Et pour l'avoir vécu, bah, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, ça met du temps. Ça met du temps. Il va falloir fédérer, pas mal de monde, mettre du sens. Mais néanmoins, avec cet appui-là, c'est quand même, plus simple, quoi. C'est une belle carte, quoi. Quand en plus on n'a pas l'appui des décideurs et qu'on arrive dans une équipe où personne n'est convaincu, là c'est très très compliqué.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Si tu as un sponsor de haut niveau pour le projet qui ne voit, se voit pas faire les choses autrement qu'en incluant la dimension qualité. Zoé, je ne sais pas si tu parles, mais tu es en mute. C'est peut-être pas Zoé.
Oui, j'ai un retour d'expérience à faire sur le sujet. Bon, il vaut ce qu'il vaut, hein, en toute humilité, défendre des projets qualité. Je ne l'ai pas fait 5 000 fois. Voilà, je suis pas régulièrement, en tout cas, dans cette position de défendre un budget qualité. Mais c'est arrivé une fois où il était question de développer un deuxième lot sur un applicatif qui fonctionnait, mais qui avait un problème au niveau dès que les développeurs démarraient quelque chose dessus, ça pétait un peu ce qui marchait déjà à côté. Voilà, le coup classique. Il n'y avait aucun test unitaire. Du coup, il y a un développeur qui a eu cette initiative de dire, OK, bah, là, ce qu'il faudrait, ce serait qu'on passe 10 jours pleins à faire que des tests unitaires. Et ensuite, on pourra se lancer sur le deuxième lot en toute sérénité. Donc voilà, ça c'est l'initiative du développeur. Donc c'est déjà un super point. On avait dans l'équipe un développeur qui est sensibilisé aux tests unitaires, qui voit la valeur ajoutée, qui est moteur et qui en plus sait bien les faire. Donc partant de là, le but était de débloquer les 10 fameux jours en parlant aux décideurs. Donc le parti que j'ai pris sur cette problématique, c'était bah de faire vivre aux décideurs l'enfer de développer quelque chose quand on ne sait pas, en fait. Quand on n'a plus cette vision, tu as plein de règles de gestion, tu ne vas pas toutes les vérifier 150 000 fois avant de pousser ton commit. Donc, j'ai mis en place un jeu de cartes, donc un jeu en deux phases. Et j'ai fait jouer les décideurs à ce jeu. Donc, c'est un petit truc, hein, ça a pris 1 heure. Mais en gros, dans la première partie, ils avaient une sorte de casse-tête avec 10 règles de gestion pour mettre en place un set de une dizaine de cartes. Et il fallait que ça réponde à 10 règles différentes qu'ils découvraient au fur et à mesure. Et ils n'avaient pas la possibilité de revoir les règles précédentes. Il fallait se souvenir tout dans la tête. Voilà, ça, c'était la première phase. La deuxième phase, ils avaient le droit de consulter à tout moment les 10 règles. Et même, ils devaient les repasser à chaque fois qu'on en ajoutait une supplémentaire. Et du coup, bah voilà, la conclusion toute trouvée, c'était, bah voilà, vous avez pu tester sans test unitaire, avec test unitaire. Qu'est-ce que vous préférez ? Et pour schématiser. Donc voilà, c'était pas un énorme enjeu non plus, mais les 10 jours de tests unitaires initiaux ont été débloqués et les nouveaux développements qui ont été faits derrière comprenaient des tests unitaires poussés bien sûr par ce développeur aussi qui avait cette expérience dessus. Donc voilà, j'ai retenu ça et je me suis voilà, c'était pas mal.
Ouais, non, c'est cool. C'est toujours bien d'avoir un truc à montrer que les gens fassent l'expérience des difficultés de première main. C'est plus facile de convaincre comme ça.
Ça fait penser aux séminaires d'innovation et tous ces trucs-là qu'ils font faire aux exécutifs et tout. On va leur faire pareil des séminaires d'acculturation à la qualité, mais avec ça, quoi, avec des trucs concrets. C'est vrai qu'ils ne savent pas coder, donc on ne peut pas vraiment leur faire vivre l'enfer exact du développeur perdu qui a peur de toucher et qui fait 20 fois le même dev avant de comprendre comment ça marche. Mais bon, c'est vrai que moi, je réfléchissais un peu à ce que tu disais, Arnaud, mais ça faisait aussi au point que tu disais là, Zoé, quoi, c'est pour faire changer un décideur là, qui n'est pas du tout sensibilisé, c'est un long chemin, je pense honnêtement. Le mec, il faut qu'il se prenne un mur sur un projet stratégique pour changer. Enfin, moi, c'est là.
Ouais, moi, je suis assez d'accord. Il faut qu'il se prenne un mur pour changer. Ouais, c'est exactement.
Il y a souvent des gens qui sont un peu, qui vont mettre de côté, balayer d'un revers de bras. Non, mais ça, on voit plus tard, c'est bon, livré, etc. Enfin...
Je veux dire, il faut qu'il se prenne un mur pour changer de boîte, c'est ça?
Ouais, aussi. Ouais.
Peut-être les deux, d'ailleurs. Ouais, parce que. Ouais.
Ça fait penser un petit peu à cette métaphore là des deux grenouilles qui se retrouvent dans l'eau bouillante, mais il y en a une qui était dans l'eau froide au départ. Et en fait, on peut voir parfois des boîtes où en fait les développeurs ils sont à 70% bah voilà, en mode pompier à faire des maintenances et que ça ne fonctionne pas, et à 30% sur des nouveaux projets. Mais en fait, comme c'est venu graduellement, ça, quelque part, ça choque personne au fil du temps.
Ouais, c'est devenu normal en fait. Ouais, c'est clair. C'est vrai ça.
C'est pour ça que, alors là, on s'éloigne du sujet, mais je pense que voilà, dédier une partie du temps aussi du fonctionnement de l'équipe à l'amélioration continue, donc via les rétros, via les post-mortem, via des revues de signalement, ça permet, pareil, hein, ce n'est pas des activités qui sont généralement chiffrées et prises en compte dans le projet, mais ça permet de se dire, putain, il y a telle typologie de problèmes qu'on rencontre encore et encore et encore. Est-ce qu'on n'y ferait pas quelque chose, quoi?
Qu'est-ce que c'est les postes?
Ah, Zoé, ça coupe chez moi.
Ouais.
Vous entendez Zoé ou pas, vous?
Non, pareil. Non. J'essaie de décrypter la question, mais pas évident.
Je crois que c'est qu'est-ce que c'est les post-mortem, non ou... Ah, moi, ah. Je parie sur ça, mais...
Ouais. Alors, le post-mortem.
Oui, c'est en fait... ça. Ouais. Alors, ça a frisé. Hein. Je ne sais pas si on a bien entendu, mais ouais, je te demande.
Ouais. Alors, le post-mortem, il y a plusieurs types de post-mortem. Il y a un truc de haut niveau qui est le post-mortem projet, où à la fin du projet, on se réunit et on fait une espèce de rétrospective. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qu'on ferait différemment au prochain projet? Et moi, ce dont je te parle, c'est des post-mortem sur des incidents, en fait. C'est-à-dire que voilà, la prod a crashé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que ça a commencé? Ça a eu quoi comme impact? C'était quoi les raisons? Et qu'est-ce qu'on peut mettre comme action en place pour pas que ça se reproduise?
Ouais, bah nous, c'est bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais ça me parle beaucoup. On a mis en place, quel que soit l'incident maintenant, qu'il soit mineur ou majeur, on a forcément un post-mortem. On prend le temps d'écrire un post-mortem. C'est ce qu'on a mis en place, ouais, il y a un an, à peu près.
Voilà, donc ça, c'est un bon exemple, tu vois, d'une activité qui est nécessaire, qui est intéressante, qui paye des dividendes. Et qui ne sera jamais budgété dans un projet parce que ça passe au-dessus de la tête de tout le monde. Et pourtant, il faut avoir du temps pour faire ça, quoi. Mais quand tu dis à ton commercial, je vais avoir besoin de, tu vois, de ne serait-ce que 2 heures pour faire de la rétro ou de l'amélioration continue par sprint, quand il est bien luné, il dit oui, oui. Et puis, en fait, la plupart du temps, ça passe à la trappe, quoi. Ou alors, ça se transforme en séance de. C'est le mur des lamentations et c'est pas productif, quoi. Parce que c'est pas encadré, parce que les gens ont pas compris le but de l'exercice. Donc, c'est pareil, toute cette formation, c'est Emma qui mentionnait le. L'apprentissage continu, apprentissage continu avec un mentor si possible. C'est des trucs qui sont vachement importants aussi, mais comment tu négocies un budget pour ça, quoi. Alors effectivement, il y a des boîtes comme Google qui ont été pionnières, hein, le 80-20, le 4 jours, 5 jours, ça a été expérimenté chez eux dans les grandes largeurs. Voilà, mais derrière, je suis à peu près persuadé qu'il n'y avait pas de ROI, il n'y avait pas de logique de réduction de coûts. C'était une expérience qu'ils voulaient mener. Ils ont pu, d'année en année, constater que ça avait un impact bénéfique, mais c'est parce que y a un CEO qui a dit, à partir de maintenant, on fait comme ça, quoi. À mon avis, ce n'est pas un consultant qui lui a dit, vous devriez gérer votre boîte comme ça, quoi.
Et je peux ajouter aussi l'importance des communautés de pratique dans l'organisation. Là, ça se négocie aussi, ou bien ça existe même dans des frameworks et c'est très recommandé dans les méthodos et les projets de nos jours. Donc, convaincre les exécutifs à avoir une communauté de pratique là où tous les collaborateurs partagent sur un sujet, là c'est très important. Et même ça implique même les devs ou les non-testeurs dans les tests si le sujet concerne les tests par exemple. Et le fait de faire ces échanges au-delà de leur projet dans les communautés, ça peut les motiver et donne plus d'idées pour qu'ils puissent les intégrer dans leur quotidien.
Par contre, je suis d'accord, c'est vachement intéressant. Par contre, il y a pareil un effet pervers que moi j'ai constaté de temps en temps, c'est que du coup, on recrée un peu les silos, on repartage avec ses pairs et quand on a un problème, on va plutôt aller chercher la communauté plutôt que, tu vois, de l'évoquer dans l'équipe. Communauté de pratique, oui, mais collaboration à l'intérieur de l'équipe, plus, quoi.
Oui, ça, c'est certain, mais on peut dédier, par exemple, vendredi soir, 2 heures ou bien 4 heures à l'après-midi vendredi pour l'échange communautaire, en plus de ce qu'on a déjà dans l'équipe.
D'ailleurs, pareil, on est complètement hors sujet, mais comment vous le sentez, vous, le fonctionnement collaboratif à distance dans vos contextes respectifs. Comment ça se passe pour vous? C'est plus simple, plus compliqué? Pareil, ça ne change rien?
Au début, ce n'est pas évident, mais comme 2020, c'est le mode de s'adapter au communautaire, je trouve qu'il y a plus d'échanges communautaires plus que celles avant. Parce que là, on n'est plus dans une communauté de notre entreprise locale, mais on est dans des communautés internationales. Là, on trouve presque toutes les conférences, toutes les communautés sont passées en remote. Du coup, chacun de sa place peut accéder là où il veut. Tout le monde est prêt. Donc, c'est un point très fort. Moi, personnellement, au sein de Ministry of Testing, j'ai animé des ateliers pour échanger des lignes café. J'ai des participants de 14 pays. Donc, imagine qu'on a des échanges pas juste en local, mais à une échelle très vaste. Et ces échanges-là sont très instructifs parce qu'on peut apprendre des autres, de différents. Ça nous donne des nouvelles idées et comment on peut les intégrer dans nos contextes. C'est complètement différent et en faisant ces échanges-là, c'est très fort. Donc, ça s'améliore même si à distance, il y a plus d'opportunités.
Ok, bon, bon.
Est-ce que quelqu'un a déjà étudié, j'en reviens sur le sujet initial, est-ce que quelqu'un a déjà étudié l'art de la négociation?
Ouais, tu parles, ouais, si, enfin, tu fais référence à quelque chose en particulier ou plutôt sur juste globalement
Ouais, sur le domaine de la négociation, il y a des. Alors moi, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait d'école de commerce, mais je sais qu'il y a des cours de négociation qui existent dans les écoles.
Ouais.
Est-ce que vous pensez pas que ça serait intéressant qu'on
Ouais.
assiste à une formation négociation en termes de voilà, comment est-ce qu'on vend notre soupe, quoi?
Et presque
Ouais.
négociateur de prise d'otage, non? Parce que vu la pression qu'on a pour livrer son temps, il faut peut-être un truc assez bien développé, à mon avis. Non, mais ouais, t'as raison. Ouais.
Mais carrément, hein, c'est une bonne idée. Ouais. Ajouter en tout cas dans les formations. Enfin, nous on a des formations internes qui sont proposées et c'est vrai que c'est pas du tout déconnant, en fait.
Parce que c'est vrai que le cœur du problème de ce que tu remontes, enfin, du sujet aussi que tu as remonté, Arnaud, c'était que c'est quand même globalement celui-là, en fait, qu'on arrive souvent. C'est beaucoup de la négo qu'il faut réussir ou enfin, ouais, faut réussir à faire, en fait, avec des gens qui ont des fois plus de pouvoir que toi au départ, etc., dans certains contextes. Donc c'est clair que c'est le cœur du sujet. Tiens, c'est un bon, ouais, bonne idée à creuser. Tiens.
Est-ce que tu as ça dans ta liste de soft skills, Emma? La négociation
Non, le critical thinking que j'ai, ça fait partie de faire des critiques et de poser beaucoup de questions et de savoir, mais ce n'est pas vraiment lié à la négociation, mais
parce
je trouve
que négo,
que c'est aussi important.
L'articulation, la com, tu as plein de choses. Ouais.
Donc voilà une idée pour la seconde édition de ton bouquin.
C'est une importante. Aussi, on a fait le hashtag 21st Skills for Testers. Tu peux, par exemple, publier sur les réseaux et ajouter ta propre définition de comment tu vois les compétences du testeur de demain. Parce que le livre, en fait, c'est une combinaison entre le futur et le présent. Donc, c'est toujours ouvert pour les autres de donner leur avis à travers notre hashtag. Et là, c'est très important. On va faire même un workshop pour la deuxième partie du livre à Agile Testing Day pour parler de comment les gens voient ces qualités-là. Et là, je trouve que c'est très important, la négociation. Merci.
Ça marche, on va regarder. On va creuser ça, Arnaud, mon avis, sur la négo. C'est une bonne idée d'aller voir dans les body of knowledge de la négociation, des contextes difficiles en plus et tout.
Oui, surtout pour les testeurs, pas les testeurs, mais le management, disons, dans le test. Ils auront besoin certainement de cette compétence.
Yes. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine !